Bonsoir, entrons ensemble dans un temps du débat consacré ce soir aux aides aux entreprises. À l'ordre du jour ce soir, que font les entreprises des aides publiques ? Alors que les agences de notation vont rendre leur diagnostic sur l'état financier de la France, le gouvernement cherche à couper dans les dépenses pour faire baisser le déficit public révisé à 5,1 points du PIB pour l'année 2024. Parmi les pistes, celles des aides publiques aux entreprises sont généralement chiffrées, et là on n'est pas tout à fait sûr du chiffre, entre 120 et 170 milliards d'euros. Mais celles-ci ne sont pas homogènes et prennent des formes très différentes d'exonération, d'abattement fiscaux, d'apport en capital, de subventions à l'installation ou de subventions à l'investissement. On a beaucoup parlé à une époque du CICE, on parle encore du crédit impôt recherche. Ont-elles ces aides l'efficacité attendue ? Est-ce là un gisement d'économie ? Ou au contraire, sont-elles là pour compenser une fiscalité plus importante qu'ailleurs ? Nous allons poser ces questions à nos trois invités. Laurent Cordonnier, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur à l'Université de Lille et chercheur au CLERCE. Vous êtes co-auteur de la note de l'IRES, l'Institut de Recherche Économique et Sociale, qui s'intitule « Un capitalisme sous perfusion, mesures, théories et effets macroéconomiques des aides publiques aux entreprises françaises ». C'était en octobre 2022. Avec vous en studio, Olivier Redoulez, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur des études de l'Institut Rexecode et co-auteur d'une étude, c'était en juillet 2023, qui s'intitulait « Aide aux entreprises, de quoi parle-t-on ? » Enfin, troisième invité à distance depuis la Gironde où il travaille, Luc Bonzon, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur adjoint en charge du développement économique au Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine.
Vous connaissez toutes et tous la part des dépenses publiques. 50% de dépenses sociales, 30% de dépenses de l'État, 20% de dépenses des collectivités locales. Il est légitime que l'État montre l'exemple. C'est le sens des 10 milliards d'euros que nous avons annoncés avec le ministre des Comptes publics. Alors on nous dit c'est le rabot. Moi je réfute cette critique. Comme on dit avec le dicton français, quand on veut tuer son chien, on l'accuse d'avoir la rage. Quand on veut tuer une économie sur la dépense publique, on parle de coup de rabot. Mais la formule coup de rabot, c'est l'espèce de formule passe-partout pour rendre impossible toute réduction de la dépense publique. Comme aurait dit la Palice, quand on coupe une dépense, on coupe une dépense. On peut appeler ça comme on veut. Ça n'est jamais agréable, ni sympathique. C'est tout simplement nécessaire.
Vous avez titré, Olivier Redoulez, votre travail sur les aides aux entreprises. De quoi parle-t-on ? De quoi parle le ministre, donc Bruno Le Maire ? Parce qu'il parle des coupes budgétaires qu'il va falloir faire, mais il ne semble pas parler, en tous les cas, des aides aux entreprises.
Des 10 milliards qui avaient été annoncés.
20 milliards maintenant.
20 milliards, il y a sans doute des aides aux entreprises qui sont dans le viseur. Ça a déjà été le cas dans la loi de finances pour 2024 avec une baisse de la déduction fiscale sur le gazole non routier qui a d'ailleurs suscité pas mal d'émoi parmi les agriculteurs, et ce qui montre par la même occasion la difficulté qu'il y a à toucher à de tels dispositifs qui sont politiquement très sensibles. Le ministre n'a pas donné forcément les détails, mais il me semble qu'il y a des choses sur l'apprentissage qui sont dans les viseurs. Il y a possiblement des dépenses fiscales sur le CIR qui peuvent être touchées. Bref, effectivement,
le crédit impôt recherche.
Il y a un montant considérable d'aide aux entreprises. Et il suffit de lire les rapports de la Cour des comptes ou des notes d'économistes pour voir que peuvent être perçus comme une source d'économie. Après, ça va être justement le débat pour voir si c'est bien le cas ou pas.
Vous chiffrez à combien, vous, les aides aux entreprises ? Parce que, franchement, quand on regarde ça et qu'on s'en approche, les chiffrages sont quand même extrêmement différents.
Alors, nous-mêmes, justement, on ne les chiffre pas nous-mêmes. On prend.
Je crois que c'était la Cour des comptes. Non, c'était Bercy qui avait dit 110 milliards à une époque.
Effectivement, en fait, il y a eu plusieurs chiffrages qui ont été faits au cours de différentes années. Celui du CLERCE, par exemple, que l'on a regardé, nous, qu'on a fait notre étude, celui de France Stratégie, ce sont les deux plus récents qui portent sur la même année 2019 et qui ont l'avantage de montrer à la fois comment on peut calculer ces montants et en même temps la dépendance à méthodologique.
On va en parler justement avec le chercheur au Clercq et co-auteur de cette note, Laurent Cordonnier. 2019, c'est une référence, mais entre-temps, il y a eu le quoi qu'il en coûte, entre-temps, il y a eu plein de dégagements d'argent public pour pouvoir aider pas simplement les Françaises et les Français, mais les entreprises. Et donc, il faudrait peut-être, je ne vais pas vous demander de vous replonger dans cette documentation pour la refaire depuis 2019, mais ça serait extrêmement intéressant pour pouvoir mieux chiffrer par rapport à ce que vous avez pu déterminer en 2019, Laurent Cordonnier.
Tout à fait. Alors, le chiffre que nous avions obtenu en 2019 était proche de 160 milliards par an d'aide aux entreprises, sous plusieurs formes, si vous voulez, on pourra détailler. Depuis, on a refait les comptes pour 2022 et on arrive plutôt plus près de 100-175 milliards. Bon, moi, je dirais qu'il faut arrêter les comptes avant le Covid, parce que ce qui s'est passé dans la période Covid, c'est tout de même de l'exceptionnel.
Oui.
C'est quelque chose qui est arrivé comme des mesures de soutien d'urgence aux entreprises, et tout à fait à propos, il faut le dire. Hein, si ça n'avait pas été fait, on ne sait pas forcément dans quel état on aurait retrouvé les entreprises et les salariés aussi qui ont été soutenus. Donc, si on arrête les comptes avant cette catastrophe.
Donc c'est votre étude de 2019.
Voilà, 2019, c'est plutôt 160 milliards et qui se dispatche en trois gros morceaux.
Allez-y. Hein.
Les dépenses fiscales, c'est 27% de cette somme, un tout petit tiers. Les exonérations.
Donc ce sont les dépenses fiscales, ce sont les allègements.
Alors oui, c'est les impôts auxquels l'État renonce par dérogation
au
droit commun des impôts en prévoyant des exonérations fiscales. Les exonérations de cotisations sociales, c'est de l'ordre de 76 milliards, chiffre URSSAF 2022, donc un peu réactualisé. Et ce qu'on appelle les dépenses budgétaires, c'est-à-dire plutôt le mode d'intervention par la subvention, ça représentait 49 milliards d'euros. Donc le gros du paquet, presque la moitié du paquet, ce sont les exonérations de charges sociales, dont l'objectif, on peut le rappeler, c'était soutenir l'emploi, augmenter la compétitivité des entreprises et améliorer l'attractivité du territoire.
Est-ce que cette présentation vous convient, Olivier Rodoulès? Et si elle ne vous convient pas, pourquoi?
Alors, sur les montants, elle me convient très bien. D'ailleurs, je pense effectivement, on voit déjà qu'on a trois grands blocs qui sont de nature assez différente, qui remplissent des objectifs déjà chacun multiples. À l'intérieur, si on va en particulier des dépenses fiscales, en fait, il y a tout un tas de dispositifs qui sont assez hétérogènes, parce que les dépenses fiscales, il y a le CIR, mais il y a aussi le prêt à taux zéro, il y a la TVA réduite sur un certain nombre de secteurs, sur la restauration, sur le bâtiment. Il y a des mesures sur le gazole non routier pour l'industrie, pour les transporteurs, pour les agriculteurs. Donc en fait, c'est un ensemble d'aides qui sont assez hétéroclites. Certaines visent des territoires, certaines visent des populations en particulier, et qui s'ajoutent et qui forment un tout budgétaire, mais qui traduisent des réalités différentes. Et chaque fois, si on veut vraiment rentrer dans le détail et donner un avis, il faut les traiter une par une. Effectivement, les allègements de cotisations remplissent pas mal de rôles. Ils sont un héritage de l'histoire. Les premiers datent des années 90. Puis après, il y a une série d'allègements qui ont été mis en place au moment du passage aux 35 heures. Puis après, il y a ceux qui ont été issus du CICE et du pacte de responsabilité. Chaque fois, en fait, sur ces allègements, on voit qu'on a d'abord l'emploi pour les bas salaires qui sont pris par le niveau du SMIC, un enjeu de coût du travail. Il y a des questions de compétitivité, mais c'était surtout au niveau du CICE. Donc c'est un peu plus récent et ça touche une proportion plus réduite. Et puis après, il y a là encore des sujets de secteur, de territoire. Donc chaque fois, en fait, il faut se poser la question du fait générateur. Et donc c'est un ensemble assez hétéroclite des aides aux entreprises.
Alors Luc Bonzon, vous regardez ça d'un autre point de vue. Vous êtes directeur adjoint en charge du développement économique au Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine. Vous êtes donc dans une collectivité territoriale très importante, la Nouvelle-Aquitaine, et vous déclenchez des aides. Est-ce que vous les déclenchez sur ce même mode que viennent de décrire à la fois Laurent Cordonnier et Olivier Rodoulès?
Alors nous, effectivement, on va plutôt se situer sur le volet dépenses budgétaires et quelque part subventions, puisque en tant que collectivité, on n'a pas déjà la puissance de feu que peut avoir l'État et son budget. Mais là, on va plutôt, nous, être sur ce volet subventionnement des entreprises, sur tout ce qui est R&D, recherche et développement, sur tout ce qui est aide à l'investissement productif, à la décarbonation. Et donc, quelque part, c'est l'amélioration du système productif des entreprises de la région Nouvelle-Aquitaine. Donc, on est...
Des entreprises qui sont déjà installées ou des entreprises que vous, dont vous espérez qu'elles s'installent dans votre région? Parce que c'est pas tout à fait la même chose entre ceux qui sont déjà là, qui occupent un bassin d'emploi, et ceux qui, peut-être, font miroiter la possibilité de venir. Mais j'imagine que la concurrence est sévère avec d'autres régions.
La concurrence est sévère avec d'autres régions, certes, mais donc on a une double stratégie, en fait. On a une stratégie de comment on consolide les entreprises de Nouvelle-Aquitaine sur le territoire, et donc on va accompagner ces entreprises à investir et à se développer, puisque l'objectif, c'est maintenir l'emploi, voire en créer. Et on a également une stratégie pour aller chercher et implanter de nouvelles entreprises. Et d'ailleurs, la Nouvelle-Aquitaine est la deuxième région en termes d'ouverture d'usines en 2023. On a réussi
après la région Hauts-de-France, j'imagine.
Hauts-de-France, oui. Et on a réussi à les capter, en tout cas, des investisseurs qui viennent s'implanter en région Nouvelle-Aquitaine. Donc ça, c'est aussi le bilan qu'on peut avoir d'une politique industrielle, d'une politique économique d'une région et du dynamisme qu'il peut y avoir sur le terrain et le territoire. Donc on voit bien que l'aide aux entreprises peut avoir un impact aussi direct sur le territoire et les entreprises.
Laurent Cordonnier, est-ce que vous mettez cela dans le même sac que ce sur quoi vous avez travaillé avec la note de l'IRES, l'Institut de Recherche Économique et Sociale, en 2022?
Oui, les interventions des régions sont dans le paquet dépenses budgétaires. Et ces dépenses représentent tout de même une faible part de la dépense budgétaire au niveau national. Hein. Je parle sous le contrôle de
Laurent Bonzon, Luc Bonzon.
Luc Bonzon, je crois que c'est un dixième. Ça représente l'engagement régional ou des territoires représente un dixième de l'engagement national. Mais c'est important quand même à l'échelle du budget des régions.
Mais est-ce que, puisque votre rapport s'intitule un capitalisme sous perfusion, on voit bien ce que vous voulez dire avec ceux et celles qui ont rédigé cette note avec vous. Est-ce que vous pensez que ces aides sont efficaces ou ne le sont pas, ou pas suffisamment efficaces? Est-ce qu'il y a assez de contreparties? Est-ce que aussi, c'est ce que vous semblez dire, il y a une sorte d'effet d'accoutumance des entreprises à ces aides publiques qu'il faudrait peut-être revoir?
Bon, là où on peut vraiment se prononcer, je dirais, sur des bases documentées, avec des études académiques à la fois théoriques et empiriques, c'est plutôt sur les exonérations de cotisations sociales, parce que comme vous l'avez dit à l'instant, les autres dispositifs sont foisonnants, alors que là, on a des dispositifs qui sont concentrés sur l'abaissement du coût du travail, 80 milliards d'euros. Et les études ont principalement porté, les plus récentes, sur le CICE, ensuite transformé en exonération de cotisations sociales. Il y a ces études, et puis il y a ce qu'on peut essayer de détecter, voilà, en faisant un peu de chartisme sur les données macroéconomiques aujourd'hui pour ajuster. S'agissant de ce qui était visé, l'emploi, le commerce extérieur et la localisation des investissements, la plupart de ces études, certes avec des modulations, ont conclu que les résultats étaient tout de même assez décevants, voire très décevants. Sur l'objectif emploi, je ne vais pas nous bombarder de chiffres, mais quand même, c'est l'objectif le plus important. Sur l'objectif emploi, il y avait quand même 20 à 24 milliards de crédits d'impôt compétitivité emploi transformés en exonération de charges sociales. L'effet, selon les instituts qui ont étudié, ça va de 100 000 à 240 000 emplois créés, sauvegardés.
C'est pas ça qui a fait baisser le chômage.
Annuellement. Bon, ça joue un petit peu.
Ça joue, mais ça n'est pas le seul critère.
Mais rapporté au montant de la dépense, ça fait 100 000 euros par emploi créé et par an qu'il faut renouveler tous les ans. Donc c'est vraiment inefficient.
Je ne suis pas sûr que vous soyez d'accord, Olivier Roulet. Est-ce qu'il y a un effet d'accoutumance, une sorte de drogue légère qui ferait que les entreprises attendent d'abord des aides avant de peut-être penser à leur propre stratégie pour pouvoir se développer? Et est-ce que, comme on a pu le noter dans divers articles qui sont parus depuis 2 ans, il y aurait un État-providence, mais un État-providence pour les entreprises?
L'État-providence pour les entreprises, il s'est surtout révélé aux mains du Covid, où pour une fois l'État a pris en charge un certain nombre de choses, à la suite en fait de mesures que lui-même il a décidées, c'est-à-dire le Covid, c'est les fermetures de sites, les impossibilités de travailler, c'était aussi une décision publique. Donc, bon, je ne vais pas la remettre en cause parce que c'est une décision de santé publique, mais c'était une crise d'origine sanitaire et l'État-providence a été présent pour les entreprises comme pour les ménages d'ailleurs. Mais effectivement, il y a eu à dessein la volonté de préserver le tissu productif. Sur le sujet des aides aux entreprises, en fait, on a toujours un problème d'évaluabilité. C'est-à-dire que, effectivement, ce que l'on peut mesurer précisément avec des mesures de l'économétrie, c'est-à-dire en comparant des scénarios, ce qu'on observe en essayant d'avoir des benchmarks, ça fournit des niveaux assez limités.
Des benchmarks, c'est voilà. Des comparaisons.
Des comparaisons, ça fournit des chiffres assez limités. Et cela étant, il faut les mettre en face de ce qu'on observe après au niveau macroéconomique, c'est-à-dire que, par exemple, le taux d'emploi dans l'économie, il est à 68,4%, il est le plus élevé depuis 1975.
Et vous pensez que ces aides ne sont pas pour rien ?
Je pense que ces aides n'y sont pas pour rien. Cela étant, l'économétrie et même l'économie a ses limites entre ce qu'elle est capable de mesurer précisément et puis les effets qu'elle a peut-être du mal à voir. Sachant que par ailleurs...
Ça veut dire qu'on est quand même sur des, disons, sur des épaisseurs de traits qui sont assez, assez larges et qu'au bout du compte, il y a beaucoup de convictions qui rentrent dans un sens ou dans l'autre pour considérer que c'est nécessaire et qu'il faut le faire, ou au contraire que c'est trop et qu'il faudrait les réduire, ces aides aux entreprises.
Mais vous savez, de toute façon, ces aides aux entreprises, elles rentrent dans un contexte avec des prélèvements assez élevés. Et on compte en fait des aides qui viennent en déduction de prélèvements très élevés.
Donc, c'est ce que vous appellerez les prélèvements nets. C'est ça. C'est-à-dire, il faudrait. Donc, il y a les prélèvements qui sont pris par les impôts sur les entreprises, et puis de l'autre côté, il y a les aides qui viennent de l'autre côté.
Donc, le taux normal de prélèvement, par exemple, sur le travail, vous pouvez le situer à 44%, ce qui est le taux plein aujourd'hui à peu près. Et donc là. Quand vous calculez vos aides, ben ça vient en déduction de ça, donc ça fait beaucoup. Vous pouvez aussi considérer que le taux normal il est plutôt à, je sais pas, 30%, et donc qu'il y a une partie des entreprises qui sont au-dessous, en dessous notamment de 3,5 SMIC, et puis d'autres qui sont au-dessus. Et ce que ça reflète surtout une forte intervention de l'État dans l'économie.
Oui, mais ça.
Voilà. Mais en prenant.
Mais ça, vous en plaignez pas forcément en tant que spécialiste de ces. Enfin, les entreprises ne s'en plaignent pas forcément. Est-ce que de votre côté, Luc Bonzon, vous pouvez rajouter quelque chose à cette discussion ?
Effectivement, en fait, c'est sur le sujet de l'évaluation de l'impact, notamment des politiques publiques. Ça peut être important, mais aussi difficile de le faire dans le temps et de voir quel est vraiment cet impact sur le territoire et les entreprises.
En même temps, vous héritez vous-même dans une région Nouvelle-Aquitaine de 30 ans de désindustrialisation, de 30 ans de départ des entreprises, de 30 ans de délocalisation. Et au bout du compte, vous avez bien vu combien il était difficile, vous ou d'autres, de donner de l'argent comme dans un désert, ça passe dans le sable et on ne sait pas très bien ce qui en ressort exactement, ni en termes d'emploi, ni en termes de bénéfices pour le territoire. Et c'est pour ça que vous avez, j'imagine, mis en place des moyens d'évaluation de votre côté.
Exactement. Et puis on cible en fait les aides aux entreprises, c'est-à-dire qu'on n'aide pas toutes les entreprises. Il n'y a pas d'automaticité dans l'attribution des aides aux entreprises.
C'est en ça que vous n'êtes pas l'État.
C'est en ça que nous ne sommes pas l'État et c'est en ça aussi qu'on constitue et qu'on essaye d'animer une stratégie industrielle à l'échelle de la région. Et donc avec cette stratégie, l'idée est de pouvoir cibler au mieux les entreprises, et c'est plutôt des PME, des ETI. La stratégie, c'est de faire grandir les entreprises, qu'une TPE devienne une PME, un ETI, et que globalement, nos subventions et nos aides vont essayer de permettre tout ça. Et quelque part, pour juger de l'impact de l'aide régionale et de l'aide publique, on va aussi vérifier à la fin du projet pour voir si, notamment sur l'emploi, l'entreprise a recruté par rapport à l'objectif qu'elle s'est donné au démarrage. Et donc, nous, toutes nos aides qu'on va attribuer, on va vérifier de par des critères, de par les différents objectifs que l'entreprise s'est donné, si elle l'a réalisé ou pas.
Est-ce qu'on peut dire, Laurent Cordonnier, que la question pour vous, en tant qu'analyste, je rappelle que vous êtes professeur à l'Université de Lille, c'est de voir s'il y a
nécessité ou non d'instaurer des contreparties pour les entreprises qui ne seraient pas suffisamment bénévolantes, pourrait-on dire, dans la façon de rendre l'argent qui leur a été confié.
Oui, une des premières choses qu'on pourrait vers laquelle on pourrait évoluer, c'est à l'image des régions d'ailleurs. C'est ce qu'elles font quand elles aident les entreprises. Elles contractualisent avec les entreprises. Elles contractualisent en insérant dans le contrat de développement ou dans la convention des objectifs en termes d'emploi, en termes d'investissement et des objectifs chiffrés.
Avec des amendes en cas où ça n'est pas tenu, non ?
Oh ben, c'est pas amende, mais c'est restitution pour tout ou partie des sommes qui ont été
versées. Ça, c'est l'expérience, pourrait-on dire, parce qu'on a, dans un premier temps, dès qu'on a eu un début de désindustrialisation, on a donné beaucoup sans demander beaucoup de contreparties. Et après, on a compris qu'il fallait en demander.
De plus en plus, ça se fait sous forme de convention, même pour les associations d'ailleurs, hein, pas seulement pour les entreprises, et vérification que les objectifs ont été remplis. Ça ne veut pas dire non plus qu'on est sûr que les emplois qui ont été créés ont été créés par exemple grâce à l'aide.
Bien sûr.
Il y a forcément un peu d'aubaine. Mais donc on peut aller vers un système comme celui-ci de contractualisation au niveau national, avec évidemment les plus gros établissements et les entreprises intermédiaires. On ne peut pas faire ça avec 1 million d'entreprises, mais ce serait un peu la moindre des choses.
Est-ce que ça vous dérangerait s'il y avait ce type de contractualisation, Olivier Redoulès? Parce que quand on lit l'article qui vous cite beaucoup dans l'Opinion, c'était l'année dernière, sur ces questions-là, ils sont totalement hostiles, enfin le journaliste de l'Opinion est totalement hostile à cette idée de contractualisation, ou de prendre des mesures qui contraindrait encore un peu plus les entreprises.
Je pense qu'il y a plusieurs... la contractualisation, elle existe beaucoup. C'est ce qui a été fait notamment dans le cadre du plan de relance, dans le cadre de France 2030, ce que font les régions.
Ce ne sont pas les sommes les plus gigantesques, hein, France 2030. Hein.
Ça ne peut pas s'appliquer à tout. Il y a des questions de... Il y a des questions de volume, il y a aussi des questions de... d'attractivité un peu plus générale du niveau. Par exemple, si vous prenez les cotisations sur les bas salaires, il y a un sujet de coût du travail. Est-ce que ça ferait sens de contractualiser pour chaque niveau de salaire pour des entreprises en fait qui dont le niveau de demande va dépendre du fonctionnement du marché, va dépendre du tissu productif local. C'est pas forcément clair que ce type de mesure fonctionne.
18h43, vous écoutez Le Temps du Débat sur France Culture. Que font les entreprises des aides publiques? Nous sommes en compagnie de 3 invités. Vous venez d'entendre Olivier Redoulès, directeur des études de l'Institut Rexécode et co-auteur de l'étude Aide aux entreprises, de quoi parle-t-on? Laurent Cordonnier est avec nous en studio. Il est professeur à l'Université de Lille et chercheur au Clercé. Il est co-auteur d'une note « Un capitalisme sous perfusion » paru en octobre 2022. Et Luc Bonzon est avec nous depuis la Gironde, où il est directeur adjoint en charge du développement économique du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine.
Il y a effectivement dans le projet de loi de finances, dans le projet de loi de finances de la Sécurité sociale également, un certain nombre de remises en cause de cette politique de l'offre au motif que les finances publiques sont dégradées. Oui, mais précisément la politique de l'offre a contribué à ce que les finances publiques soient moins dégradées. Le ministre de l'Économie et des Finances lui-même a signalé que jamais l'impôt sur les sociétés n'avait atteint de tel niveau, 68 milliards d'euros l'année dernière. Alors, est-ce que les 2 millions d'emplois que nous avons créés ces dernières années, ce sont des cadeaux aux entreprises? J'ai tendance à dire que ce sont plutôt des cadeaux aux 2 millions de personnes qui sont venues à l'emploi grâce à cette politique de l'offre. Est-ce qu'on peut parler de cadeaux quand, je le redis, les entreprises acquittent 68 milliards d'euros, c'est-à-dire 2 fois plus que 5 ans auparavant? C'est un cadeau au pays. Je crois que les pouvoirs publics sont là précisément pour faire des cadeaux au pays.
France Culture, Le Temps du Débat. Emmanuel Laurentin.
Vous venez d'entendre Patrick Martin, président du MEDEF. C'était il y a 6 mois sur BFM Business. Politique de l'offre, politique de la demande, c'est quoi la différence pour ceux qui, comme moi, n'ont pas fait beaucoup d'économie à l'université? Laurent Cordonnier.
La politique de l'offre, c'est une politique, précisément comme celle dont on parle, qui vise à améliorer les conditions de rentabilité des entreprises en baissant éventuellement le coût du travail ou d'autres coûts, en favorisant les profits, en levant moins l'impôt, en supposant que de cet encouragement, il viendra une dynamique supplémentaire en termes d'investissement et d'emploi. comme on l'a vu, et là il faut contester quand même les chiffres qui ont été entendus,
par Patrick Martin.
Les emplois créés, c'est pas 2 millions d'emplois grâce à cette politique, c'est 100 000 à 240 000. Alors certes, c'est de l'économétrie, mais on n'a pas mieux, hein. On n'a pas mieux pour évoluer.
Pour mesurer.
On peut pas aller chercher les évaluations des emplois créés à d'autres endroits qu'en utilisant ce type de méthode. Et la Banque de France elle-même, qui s'est livrée à l'exercice, a dit c'est 240 000.
Bon. Oui, donc c'est pas très éloigné du chiffre que vous proposez.
C'est entre 100 000 et 240 000, et encore pour un prix exorbitant. Donc cette politique de l'offre est très très coûteuse. Je ne dis pas qu'elle marche pas. Évidemment, il faut envoyer des preuves d'amour aux entreprises, sans doute. Il faut pas avoir la réputation d'être le pays qui prend tout au-dessus de X euros de profit. Mais cette politique de l'offre, ces preuves d'amour, elles sont extrêmement chères. Bon. Et il y a, je sais pas si vous voulez en parler tout de suite, mais il y a sans doute mieux à faire en termes d'emploi que d'en passer par là. De toute façon, ces exonérations de charges sociales sont vraiment en question aujourd'hui. Il y a une mission
qui a été commanditée par l'ancienne première ministre Elisabeth Borne.
C'est messieurs Vasmer et Bozio qui
ont fait une revue des dépenses, comme on dit, pour voir.
Voilà. Et donc, ils se demandent ce qu'il faut conserver. Quand même, il y a un consensus qui commence à se dégager chez les économistes. Les exonérations de charges sociales au-dessus d'1,6 fois le SMIC. Ou 1,8 fois le SMIC, ne produisent absolument rien en termes d'emploi, de compétitivité. On peut tout à fait récupérer cet argent-là, et pas forcément en frustrer les entreprises, dire avec cet argent, on fait de la commande publique aux entreprises pour assurer la décarbonation du pays, pour assurer la réhabilitation des logements, pour assurer la transition des énergies vers le renouvelable. Et là, on a la garantie en termes d'emploi. Parce que plus de commandes, c'est plus de production. Et c'est plus d'emplois. Donc on sait comment faire d'une certaine manière pour pas verser de l'eau dans le sable. Il faut procéder par la dépense publique.
Olivier Rudelès, vous disiez d'ailleurs tout à l'heure vous-même que effectivement on était dans une économie qui, si elle n'était pas administrée, où l'État jouait une grande part. Donc qu'est-ce que ça changerait si c'était des commandes d'État plutôt que des exonérations de charges ou des exonérations fiscales?
Le sujet, c'est que une partie des aides aux entreprises, justement, est là pour venir en déduction de niveaux de prélèvement qui étaient très élevés. Alors, c'est vrai au niveau du SMIC, et c'est un enjeu d'emploi. C'est vrai au-delà de 1,6 SMIC, et c'était le sujet du CICE. C'était le rapport gallois, c'était qu'on se compare à l'Allemagne, on a un coût du travail qui est beaucoup plus élevé en France à cette époque, qui a été en moyenne diminué, mais qui pour des salariés de niveau ingénieur reste plus élevé. Donc au-delà de ça, en fait, certes la commande publique peut faire une partie de l'économie, mais elle ne va pas couvrir l'ensemble de la vie économique.
Quand on sait combien la question de la transition énergétique est importante, on se dit que ce sont des sommes absolument astronomiques à remettre en jeu d'une certaine manière.
Est-ce que c'est la commande publique qui doit gérer ce que vous allez faire chez vous? En fait, c'est déjà un petit peu le cas quand on voit les aides à la rénovation énergétique, qui sont déjà... est-ce qu'on peut aller plus loin que ça? C'est difficile. Est-ce qu'on peut aller plus loin que faire ma prime rénov ou des aides qui permettent finalement, qui viennent réduire une dépense contre quelque chose de mesurable?
On a cru comprendre que la prime rénov était aussi dans le viseur du gouvernement et qu'il y aurait peut-être aussi quelques petites effectivement coupes dans ce budget. Luc Bonzon, on dit souvent que le crédit impôt recherche serait... Alors peut-être la première niche fiscale de France, et j'imagine que travaillant au Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, dans cette aide aux entreprises, vous avez beaucoup d'entreprises qui vous disent travailler en recherche et développement, donc ça fait partie, j'imagine, de ce qui est redevable du crédit impôt recherche. Qu'est-ce que vous en dites de cela ?
En tout cas, effectivement, le crédit impôt recherche est un moyen de financement des projets de recherche et développement des entreprises. Et nous, on va venir compléter ou on va venir aller un peu au-delà pour accélérer, en tout cas, ces projets.
Donc,
de
l'entreprise touche des aides à ce crédit impôt recherche de la part de l'État. Et en outre, vous pouvez rajouter quelque chose en tant que conseil régional.
Tout à fait. Pour justement ajouter et accélérer la volonté en fait des collectivités, de l'État plus globalement, c'est d'accélérer les projets pour qu'ils puissent se faire rapidement et puis ensuite derrière industrialiser. Et donc derrière en tout cas le financement, il y a aussi tout l'accompagnement technique qui peut y avoir à la fois en propre avec les agents publics, mais aussi avec les différents partenaires qu'on peut accompagner, les centres de transfert de technologies, les laboratoires, les universités. Tout ça est un écosystème qu'on essaye d'animer pour pouvoir en tout cas faire en sorte que les entreprises puissent bénéficier de compétences de pointe pour leurs projets de recherche et développement.
Laurent Cordonnier, c'est un des points, le crédit impôt recherche, ce n'est pas le seul, c'est important, mais ce n'est pas le seul, depuis en particulier la transformation du CICE. Mais néanmoins, c'est important parce qu'on voit là peut-être un moyen pour certaines entreprises, et des grosses en particulier, pour pouvoir tirer des bénéfices d'un contexte difficile où la question de la recherche et de l'industrialisation est au cœur des propos politiques, pourrait-on dire. Cette question, j'imagine, tient simplement à cette grande désindustrialisation qu'on a connue il y a une trentaine d'années et à un tissu productif qui s'est totalement défait, un maillage productif qui s'est beaucoup détendu en tous les cas et qui justifie, en tout cas pour aux yeux des gouvernements successifs, la question de ces aides publiques.
Il ne faut pas produire une image aussi catastrophique.
C'est quand même le seul pays où on a vu un grand patron de grande entreprise dire que il allait construire un groupe sans usine.
Oui.
Donc c'était quand même assez fort.
Ces maximes qui sont les maximes globalement d'un monde financiarisé. Oui. Et essayer d'échapper au risque industriel, ce qui est un sophisme de composition. Il faudra bien qu'un jour les usines atterrissent quelque part.
Bon. Ouais.
Mais sur le crédit impôt recherche, il est effectivement très très critiqué. Ce que l'on pourrait faire à la place, sans doute, c'est il faut soutenir la recherche et développement des entreprises,
bien sûr,
sans aucun doute. Mais à ce moment-là, il faut faire des partenariats beaucoup plus sérieux entre l'université, par exemple, ou les grandes écoles, et les entreprises, et faire passer cette manne importante par ce canal-là, par le canal de partenariat entre la recherche d'entreprise et la recherche universitaire. Si je peux me permettre, je voudrais revenir quand même sur une chose qui est le montant très élevé des prélèvements sur les entreprises en France. Bon, alors c'est effectivement, si on regarde les statistiques, il y a une dizaine d'années, 11 points d'écart en termes de valeur ajoutée entre les prélèvements sur les entreprises en France et les prélèvements en Allemagne. Aujourd'hui, on est revenu plus près de 5%. Mais j'insiste sur un point, il faut peut-être 30 secondes pour donner une petite remise à niveau en macroéconomie.
Là-dedans, j'en ai besoin, tous les temps.
Là-dedans, on compte les cotisations sociales des salariés et des employeurs. Mais c'est pas les entreprises qui payent les cotisations sociales.
Ce sont les salariés eux-mêmes.
Ce sont les salariés. Et donc, on peut très facilement montrer que depuis 70 ans, le partage de la valeur ajoutée est globalement stable. La rémunération des salariés n'a pas pris un centime sur les profits des entreprises. Quand les cotisations sociales augmentent, que ce soit la part patronale ou que ce soit la part salariée, c'est le salaire net des salariés qui absorbe le choc.
Débat d'économétrie, Olivier Redoulès.
Non, je pense que, alors, on est plutôt près de 7 points d'écart de valeur ajoutée entre, par exemple, la France et l'Allemagne. Certes, mais si vous regardez les impôts de production, on est bien devant. Et là, il n'y a pas les cotisations des salariés. Quand vous regardez le coût du travail, à la fin, on reste au niveau de l'Allemagne aujourd'hui, en moyenne, mais on est bien devant nos plus proches concurrents, qui sont en fait l'Espagne, l'Italie ou d'autres pays. Donc, je pense qu'il faut établir le fait qu'on est à un niveau de prélèvement obligatoire sur les entreprises qui est, comparativement aux autres pays, bien supérieur. Alors la question c'est, est-ce qu'elles en ont en face...
Nous avons plus de cotisations sociales que ces autres pays. Et si vous les mettez
en calcul... Oui, mais ça fait partie du coût de travail.
Non.
Ben si, ça fait partie du coût de travail.
Ce sont les salariés qui payent leurs cotisations sociales, oui. Et ceci n'a jamais entamé le taux de marge des entreprises. Le taux de marge des entreprises est exactement en 2022 qu'il était en 2050.
Alors, comparez de
1950. Oui, parce qu'en 2050, on n'y est pas encore.
Ça n'a pas entamé le taux de marge des entreprises sur longue période, mais quand on compare la France par rapport aux autres pays, c'est le cas. Et c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'on observe une perte de la part de la France dans la valeur ajoutée industrielle de l'ensemble de la zone euro. C'est quelque chose qu'on mesure beaucoup. Vous parliez de désindustrialisation, c'est effectivement un fait assez commun aux pays développés, c'est-à-dire que la part de l'industrie dans le PIB diminue. C'est quelque chose qui va avec le développement des services. Mais quand on compare la France aux autres pays de la zone euro, sa part d'industrie européenne, de la même façon que sa part des exportations, diminue. Ensuite, est-ce qu'il faudrait aller plus loin en termes de... Est-ce qu'il faudrait changer le CIR ? Pourquoi changer quelque chose qui marche ? Aujourd'hui, en fait, on a quelque chose qui permet de placer la France sur le podium en termes d'implantation de centres de R&D. Y toucher, c'est prendre le risque qu'en fait un certain nombre d'entre eux partent.
J'ai cru comprendre, Luc Bonzon, dans des articles que je lisais pour préparer cette émission, qu'il y avait des cabinets de conseil spécialisés qui prennent contact avec des instances publiques comme la vôtre pour pouvoir, et avec des entreprises, pour pouvoir leur expliquer comment récupérer le plus d'aide possible. Vous avez connaissance de cela, Luc Bonzon, ou est-ce que c'est une légende ?
Ce n'est pas une légende, en fait. C'est ce qu'on appelle les chasseurs de subventions. Et aujourd'hui, on a effectivement des cabinets qui viennent toquer à notre porte pour savoir si telle entreprise peut bénéficier pour leur projet de subvention.
Et ils font du benchmark, justement, de la comparaison avec les autres régions. Ils vous disent, j'ai un peu plus de l'autre côté, j'ai peut-être installé mon usine là-bas.
Alors, et justement, nous, l'idée, c'est de sortir de ce mécanisme-là. On essaye, en tout cas, de regarder le projet et aussi de leur dire pourquoi il est important, en fait, de s'implanter en Nouvelle-Aquitaine parce que, du coup, il y a un écosystème, parce qu'il y a des filières qui sont organisées, parce qu'on impulse, en tout cas, des choses. Effectivement, dans cette émission, on parle beaucoup d'aide financière, mais il y a tout le volet technique, le volet mise en réseau, qui est très important pour les entreprises. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu notre plus-value, notre force en Nouvelle-Aquitaine.
Mmh. Un dernier mot à tous les deux, Laurent Cordonnier et Olivier Reloulès. Donc, on a compris effectivement que plus de contreparties vous paraîtrait normal, en l'occurrence. Laurent Cordonnier, qu'est-ce que vous attendriez, là, dans ce moment où on est en train de couper dans les subventions, pour justement faire en sorte que ça aille mieux entre le débat public, pourrait-on dire, et surtout le bien commun et les entreprises?
Comme beaucoup de gens, je souhaiterais qu'il y ait un réexamen complet et une réévaluation complète de l'ensemble de ces dispositifs d'aide. Et ce que l'on peut récupérer, on n'est pas obligé, encore une fois, de frustrer les entreprises de ces mannes-là, mais la meilleure manière de procéder, c'est par la commande publique.
Et pour vous, de votre côté, Olivier Reloulès ?
Faire attention sur la commande publique ou... toutes les mesures, en fait, qui introduisent la complexité, parce que ça donne l'avantage, en apparence, du contrôle, du côté du pouvoir public, qu'il soit national ou régional, mais ça suppose tout d'abord qu'il y ait les priorités bien identifiées, ou à la fin, ça va être quelqu'un dans un bureau à Bercy ou dans une région qui va devoir dire c'est tel ou tel secteur. Et ça pose vraiment une question de comment on décide ce genre de choses. Et ensuite, ça pose des problèmes de questions de comportement d'optimisation, de complexité, d'intermédiaire. Donc, vous parliez pour un certain nombre de choses. Donc, effectivement, l'essentiel, c'est plutôt d'établir une attractivité fiscales, économiques, qui permettent d'attirer les meilleurs investissements.
Merci beaucoup à tous les trois. Merci à vous, Luc Bonzon, depuis la région Nouvelle-Aquitaine, dont vous êtes directeur adjoint en charge du développement économique au Conseil régional. Merci à vous, Laurent Cordonnier. On trouve votre étude sur un site, j'imagine, le capitalisme sous perfusion.
Sur le site de l'IRES.
IRES, I-R-E-S. Et pour vous, Olivier Reloulès, sur le site de Rexecode.
Absolument.
Merci. Le temps du débat a été préparé ce soir par Fanny Richet, Nina Richard, Roxane Poulain, Mathias Mégy, Anouk Sévenot, Stéphanie Villeneuve, réalisé par Laurence Malanda avec Élise Leu à la technique.